carnet de campagne, bonjour. Les carnets dans le Pas-de-Calais, département qui a fort à faire pour accueillir les migrants qui traversent ce territoire ou qui y échouent à la fin de leur long périple. Les associations de bénévoles qui s'occupent sans relâche de ces populations ne manquent pas, dont en premier lieu l'Auberge des Migrants. L'Auberge des Migrants, c'est un immense entrepôt avec 6 autres associations au service des exilés. Et depuis 2008, cette association intervient dans le Calaisie et l'Auberge des Migrants est devenue la plus grande plateforme d'aide humanitaire dans le nord de la France. Elle poursuit inlassablement sa vocation qui est d'apporter une aide matérielle d'urgence aux personnes en exil. L'association, qui comprend 2 salariés, accueille chaque jour entre 30 et 70 volontaires. Chacun, chacune peut apporter une contribution, soit en venant sur le terrain, soit en proposant un don. 95% des fonds de roulement de l'association proviennent de dons. L'action de volontariat peut varier d'une semaine à un mois, voire plus selon les disponibilités. L'aubergedesmigrants.fr, merci pour eux et pour elles. L'histoire que nous allons vous présenter est celle d'un couple qui invente un lieu de répit pour des enfants et des parents d'enfants handicapés. Une situation que connaissent Élodie et Louis, promoteurs de ce nouvel espace. Élodie d'Andrea nous attend au bout du fil. Et Lise Bettremieux, seconde invitée, a choisi de vivre autrement sa passion pour la culture et pour le livre, en réalisant des ouvrages faits main de A à Z, c'est-à-dire de la première lettre à la dernière.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Élodie d'Andrea, bonjour.
Bonjour.
Élodie, vous êtes une bobo ?
J'étais, peut-être. Maintenant, je suis une bobo à la ferme, plutôt.
Ouais. Enfin, vous étiez, jusqu'à présent, vous étiez dans l'économie sociale et solidaire.
Oui, c'est ça. Et tout a changé il y a 3 ans et demi avec l'arrivée de ma fille, Andrea.
Oui. Votre fille a une maladie orpheline. C'est une maladie sur laquelle on ne met même pas de nom.
Non, les recherches sont toujours en cours. C'est une maladie génétique orpheline et neurodégénérative, c'est tout ce qu'on fait pour l'instant.
Ouais. Vous avez parlé des bobos à la ferme, parce que chez vous, on a compris, il y a un grand mal, un bobo, et qui vous a porté d'abord à quitter Paris pour vous installer à Montreuil-sur-Mer.
Ouais, c'était en août 2016, et on a acquis un corps de ferme qui était en ruine avec Louis, le papa, et on a décidé en fait de le retaper pour y faire notre habitation principale et un projet touristique axé sur le bien-être et qui proposerait des séjours de répit pour les parents d'enfants en situation de handicap. Donc les aidants familiaux. Et le premier gîte est sorti de terre et ouvrira au public au 1er juin normalement.
Vous l'appelez laboratoire de répit, du nom de l'association d'ailleurs que vous avez créée.
Oui. En mai 2017, on a appelé l'association comme ça parce qu'on estime... En fait, il faut savoir que le répit, c'est d'abord souffler, faire une pause. Mmh. C'est aussi un droit qui est inscrit dans la loi handicap 2005. Pour les aidants familiaux, et nous, en fait, on teste des solutions, un peu comme dans un laboratoire, on expérimente des choses qui n'existent pas forcément et qui seraient un peu comme un séjour de répit en milieu touristique ordinaire, un peu comme quand on scolarise les enfants en situation de handicap en milieu ordinaire. Donc on crée un lieu touristique pour tous, qui aura 4 gîtes, 2 chambres d'hôtes et 2 salles dédiées au bien-être. Et elles seront aux normes PMR, personnes à mobilité réduite, et labellisées tourisme et handicap. Et l'idée, c'est qu'il y ait une ingénierie de projet externalisée avec une personne qui s'occupe de l'enfant en situation de handicap pendant que les parents prennent du répit, viennent en vacances et se retrouvent alors seuls, en couple, en tant que parents d'une autre fratrie. On voulait vraiment mettre au centre de notre projet le fait que 80% des parents d'enfants en situation de handicap se séparent. Mmh. Et que pour nous, le répit, ce serait peut-être une des solutions. Mmh.
Parfois, on a besoin d'un long répit. Est-ce que vous pouvez adapter cet accueil avec ces activités selon les besoins des familles ?
On ne pourra pas accueillir tout type de handicap. On teste. On accueille les familles dans toute leur singularité, avec leurs besoins individuels, et on leur propose un séjour clé en main. On propose de le co-construire également, et je pense que ça fait partie d'une des solutions qui est proposée en France pour prendre du répit. Il y a des séjours de répit en inclusion, il y a des séjours de répit en établissement, mais je pense qu'il y a autant de handicaps et d'enfants en situation de handicap qu'il faudra de solutions, limite, tellement c'est particulier comme situation.
Ouais, la ferme des bobos, les bobos à la ferme, est très précisément la Madeleine sous Montreuil. Quand j'entends Madeleine, je dis tiens, vous avez emporté un bout de Paris quand même avec vous.
C'est ça. Et en plus, on est niché au cœur des marais, donc j'ai emporté
bien joué.
Deux bouts de Paris. Ouais. Ouais, c'est important, mais on emporte toujours un bout de Paris avec soi quand on est passé par Paris.
C'est en fait Andrea qui a été l'inspiratrice de ce grand changement de vie et de cette création de cet espace.
C'est elle qui est à l'origine de tout. C'est elle qui est à l'origine de tous les projets qu'on met en place depuis sa naissance. On dit souvent que c'est un projet de résilience parce que voilà, on a décidé de construire plutôt que s'écrouler, pour la métaphore, et on a décidé de donner un sens à sa trop courte vie. Donc c'est notre petite pierre à l'édifice que font ériger de nombreux enfants en situation de handicap à leurs parents. Sont souvent moteurs de changement et de création.
Et c'est la première fois que je dirais qu'il n'y a aucun caractère péjoratif dans l'appellation des bobos, parce que très souvent, c'est assez péjoratif et c'est assez critique. Les bobos à la ferme, il y a un site, c'est lesbobosalaferme.fr, la page Facebook aussi, vous allez avoir le lien pour ce projet en cours de construction par Élodie et Louis. Merci Élodie.
Merci Philippe, merci à tous.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand, sur France Inter.
Je vous parle assez fréquemment d'entreprises qui ont un statut de SCOP, société coopérative ouvrière de production, selon le nom d'origine, qui parfois se transforme en société coopérative et participative. Une illustration de l'exemplarité de ce statut lorsqu'il est bien impliqué, c'est l'imprimerie L'Artésienne, dont le siège est à Liévin. Elle a vu le jour en 67, elle s'est adaptée aux besoins modernes, techniques et numériques, aux exigences sociales, avec la norme ISO 26000. Chaque salarié est associé à la coopérative, il participe ainsi aux prises de décision et aux résultats de l'entreprise. En cas de résultats économiques positifs, le capital des salariés associés est rémunéré à hauteur d'un montant préconisé par le conseil d'administration. Et pour consolider l'engagement des salariés, une prime de qualité trimestrielle est instaurée depuis près de 10 ans. La SCOP de L'Artésienne compte 60 salariés associés. Elle traite 2400 devis par mois. Le site, c'est artésienne.com. Du papier au livre, il n'y a qu'un pas que nous franchissons avec Élise Bétremieux. Bonjour.
Bonjour.
Élise, vous avez encore inventé une drôle de chose. Dénoncée par Olivier, qui parle de votre maison d'édition et dit c'est une minuscule entreprise, mais elle est majuscule par ses aspirations. La formule est jolie. Elle s'appelle les Venterniers. C'est un terme que je connaissais pas du tout. Quelle est sa signification?
La Venterne au 19e siècle, c'est la fenêtre. Et donc le Venternier, c'est celui qui s'introduit par la fenêtre. C'est un terme qu'on trouve dans les dictionnaires de police principalement. C'est l'inspiration romantique. C'est un moment où le libraire et l'éditeur, pas des métiers séparés. Ça collait très bien en fait à ce que moi j'avais envie de créer avec les Venterniers.
Oui. Alors vous êtes à Saint-Omer, les Venterniers c'est une maison d'édition mais c'est aussi une librairie?
Voilà, c'est ça, donc il y a un atelier puisque c'est une maison d'édition artisanale et à cet atelier est juxtaposé un petit point de vente dans lequel je propose à la fois mes livres mais aussi ceux de mes confrères que j'apprécie et qui ne sont pas toujours aussi visibles que les autres.
Élise, quand vous dites édition artisanale dans tous les sens du terme puisque c'est du fait main sur mesure?
On va dire que c'est sur mesure pour le texte, effectivement. C'est-à-dire qu'à partir de la lecture que je fais du texte, je vais créer un objet livre. Tout sera façonné à l'atelier. C'est-à-dire qu'on imprime, on coud, on plie, on massicote. L'objet, il est complètement dans l'atelier.
Et qui sont les auteurs?
Alors, les auteurs, il y en a quelques-uns de la région. On a notamment Olivier Solinski, puis Florence Antaz, qui sont des auteurs habitant à Saint-Omer. Et puis sinon, peut-être les auteurs viennent d'un peu partout. C'est-à-dire que avec cette expérience qu'on a, des salons, là où on va présenter notre travail, on a la chance de rencontrer des personnalités qui nous proposent des textes. Et donc, on va avoir des auteurs qui sont parisiens, mais aussi ailleurs en Europe, ou à la campagne, dans le Luberon, en Bretagne.
Il y a beaucoup de différences par rapport à ce qu'on connaît de l'édition. D'abord, par le caractère très artisanal, je me répète, et du fait main, puisque vous fabriquez les livres vous-même. Donc, ils sont à très petit tirage, ces livres.
Voilà, et c'est vrai qu'ils sont limités aux moyens humains qu'on peut avoir. Donc c'est vrai qu'il y a un temps de confection qui est nécessaire pour chaque livre. Et mais ce qu'il y a avec cette dimension artisanale, c'est surtout qu'on a une grande souplesse dans la création, le choix des matériaux, dans les découpes, dans les ce qui permet effectivement d'avoir des ouvrages assez originaux par rapport à ce qu'on trouve en librairie habituellement.
Ah oui, et l'autre originalité, c'est effectivement le contenu. Vous dites, là, ce sont des livres qui ont une particularité. Si tu lis ce que tout le monde lit, tu penseras comme tout le monde. Amazon, pour moi, est dans ce sens le temple de la pensée unique. Alors vous offrez autre chose. Mais il faut avoir les moyens, la qualité des textes pour se permettre cette différence.
Oui, tout à fait, mais les auteurs sont attentifs justement à cette façon d'éditer, cette démarche particulière qui fait qu'on donne du temps vraiment à leur texte, qu'on crée vraiment un dispositif de lecture, parce que c'est vraiment ça. Moi, je conçois le livre support comme quelque chose qui va activer la lecture. On a la chance de se voir proposer des textes d'une grande qualité, justement.
Et qu'est-ce qui motive les auteurs auprès de vous, en sachant que comme je le disais, le nombre d'exemplaires est très limité, alors que tout auteur a envie d'être diffusé et lu le plus largement possible.
Je pense que ce qui leur plaît, c'est cette dimension artisanale et aussi l'état d'esprit qu'il va y avoir dans la maison d'édition. Il y a un rapport au lecteur, étant donné qu'on lui prépare son livre à la main, qui est étrangement très personnel, même si c'est un inconnu. Et donc cette dimension qui est très chaleureuse en fait, et je pense qu'elle fait sens aussi parce qu'elle crée vraiment du lien entre le lecteur et le texte, et c'est en fait ce que l'auteur vise.
Et vous réalisez tout par vous-même, y compris l'impression?
Oui, voilà. Alors ça peut arriver de temps en temps qu'on sous-traite telle ou telle partie du travail parce que justement parfois il faut vraiment beaucoup d'exemplaires et donc une petite partie peut être imprimée ailleurs. Mais la plupart sont vraiment complètement façonné entièrement à l'atelier.
Alors, je ne vais pas vous demander le titre prochain qui est sous presse, mais plutôt sous votre coude ou sous votre main.
Alors là, le prochain, il sort début février. C'est un livre de Thomas Gillot. Il s'appelle Un pas de côté. C'est une sorte d'autoportrait sous forme de liste à partir des choses et des êtres dont il se sent proche. On va faire un objet livre qui ne sera pas illustré, mais qui sera coloré. Et voilà, c'est une bonne façon de démarrer l'année.
Alors, bienvenue aux éditions des Venterniers, dans le catalogue des innovations et des inventions des carnets de campagne. Lesventerniers.com et Les Venterniers aussi avec la page Facebook. Merci Élise.
Merci à vous. À bientôt, au revoir.